en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Les microbes sont nécessaires au développement des maladies infectieuses, c'est ce que Louis Pasteur a démontré dans les années 1860. Cependant, les microbes ne sont pas suffisants car seule une minorité des individus infectés développe une maladie clinique. Ainsi, la théorie génétique des maladies infectieuses propose que les variations génétiques déterminent la prédisposition ou la résistance aux maladies infectieuses. C'est le cas de la malaria par exemple, où les Peuls souffrent moins du paludisme que les Dogons au Mali. Dans le même ordre, l'équipe de Jean-Laurent Casanova a identifié les premières bases génétiques moléculaires de trois maladies infectieuses communes de l'enfant, la tuberculose, l'infection pneumocoxique invasive et l'encéphalite herpétique. Ces défauts monogéniques semblent prédisposer les enfants à une seule ou un petit nombre d'infections. Laissons place tout de suite à Jean-Laurent Casanova, directeur du laboratoire de génétique humaine des maladies infectieuses de l'INSERM, unité 550. Il a reçu le prix Lounsbery 2008 de l'Académie des sciences et de la National Academy of Science pour ses travaux. Il s'exprimait en mars 2009 lors d'une séance de l'Académie des sciences.
Je vais tenter au cours de cet exposé de vous expliquer ce qui a été la démarche de notre laboratoire au cours des 15 dernières années, en commençant par retracer l'histoire des idées concernant les maladies infectieuses et la prédisposition aux maladies infectieuses. Donc, puisque 2009 est l'année Darwin, qui est né en 1809, je commence par vous montrer la famille de Darwin. On reviendra plus tard aux travaux de Darwin. Je voudrais simplement vous montrer sa famille nombreuse et souligner le fait que Darwin a perdu trois enfants assez jeunes. C'était le sort de la quasi-totalité des familles. Et c'était le cas depuis 200 000 ans sur toute la surface de la Terre. Les enfants avaient de la fièvre et pour bon nombre d'entre eux, à l'issue de cette période fébrile, ils mouraient. Et donc la question centrale en médecine, c'était la question de la fièvre et de la mort des enfants. Il y avait en gros deux grandes théories. Il y avait l'idée d'une transmission horizontale et l'idée d'une transmission verticale. Donc les partisans de la transmission verticale pensaient que la maladie, cette fièvre, était finalement le témoin d'une fragilité de certaines familles. On parlait de terrain. Et puis les partisans de la transmission horizontale, on ne parlait pas encore de contagion véritablement, mais de transmission horizontale, pensaient au contraire que ces maladies se transmettaient d'un individu à l'autre. Et les deux théories s'affrontaient. Et le fait que les enfants qui tombaient malades, tombaient volontiers malades dans la même famille ou dans le même village ou dans la même tribu, c'était un argument aussi bien pour la transmission horizontale que pour la transmission verticale. Et donc c'était une question qui était débattue, mais qui n'était pas réglée. Et c'est un petit peu plus tard, quelques années plus tard, Pasteur qui a réglé, tout au moins provisoirement, cette question et qui a démontré que les microbes étaient à l'origine des fièvres et des maladies de l'enfant. Pasteur a lui-même perdu trois filles, et c'est quelques mois après avoir perdu sa troisième fille qu'il a démontré, qu'il a posé les premières bases de ce qu'on appelle la théorie microbienne des maladies, qui est bien sûr la plus grande révolution médicale. C'est la démonstration que les microbes sont responsables des maladies infectieuses, notamment des maladies infectieuses de l'enfant. C'est une découverte évidemment fondamentale qui explique les courbes, qui explique largement l'évolution de la démographie au cours de l'histoire humaine. Donc en gros, pendant toute l'histoire humaine, il y a une espérance de vie à la naissance qui est d'environ 20-22 ans. Et puis, dans les suites de la révolution pasteurienne, grâce à l'hygiène, grâce aux vaccins, et un petit peu plus tard grâce aux antibiotiques et aux sulfamides, eh bien, l'espérance de vie passe de 20-22 ans à 80-85 ans. Et ça témoigne bien de l'importance des conséquences pratiques et de leur importance de la découverte de la théorie microbienne des maladies infectieuses. Mais l'autre chose que l'on voit sur cette plaque, c'est que même au paléolithique ou au Moyen-Âge, il y avait des individus qui survivaient jusqu'à 60-70 ans, et que même aujourd'hui, en 2009 à Paris ou à New York, il y a des enfants très jeunes qui meurent de maladies infectieuses, qui sont en réanimation dans un hôpital ou un autre. Et donc les courbes se sont déplacées, certes, mais la variabilité interindividuelle reste considérable. Et aussi bien au paléolithique qu'au Moyen-Âge ou qu'aujourd'hui, il y a une très grande inégalité vis-à-vis des maladies infectieuses. Alors de 1865 jusqu'à environ 1910, les choses semblent simples. On interprète l'hétérogénéité, comme par exemple dans la famille de Pasteur, on l'interprète comme reflétant simplement une hétérogénéité dans l'exposition à l'agent infectieux ou même dans l'infection par l'agent infectieux. Par exemple, on a pensé pendant 50 ans que, pour le cas de la famille de Pasteur, les trois filles de Pasteur étaient infectées et les deux autres étaient bien portants parce qu'ils n'avaient pas été infectés. Donc pendant 50 ans, on pense que le microbe est à la fois nécessaire et suffisant au développement de la maladie infectieuse. Donc c'est une théorie assez simple. On connaît l'aphorisme de Pasteur, un microbe, une maladie, un vaccin. On connaît également les critères de Koch qui proposaient de définir les agents microbiens sur la base de critères très stricts de pathogénèse. Et tout cet édifice s'écroule environ entre 1910 et 1920, notamment grâce aux travaux de Charles Nicolle, qui démontre pour la première fois, dans des modèles animaux puis chez l'homme, qu'il y a des individus qui sont infectés et qui se portent comme le pont neuf, et qui sont à vrai dire nombreux. Et on découvre à partir de ces années-là que la vaste majorité des individus infectés, chez l'homme comme chez les animaux, sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils sont infectés mais ils ne sont pas malades. Ce qui démontre donc que le microbe est nécessaire mais qui n'est pas suffisant au développement de la maladie infectieuse. Et donc c'est depuis ces années-là la grande question, et c'est une question qui a finalement qui se heurte à de nombreuses résistances, notamment parce que la théorie microbienne des maladies infectieuses est une théorie, vous l'avez compris, extrêmement forte, extrêmement puissante. Mais la réalité, c'est que seule une minorité, et souvent une toute petite minorité des individus infectés, notamment des enfants, développe une maladie infectieuse. Et donc c'est la grande question depuis les années 10, et la réalité, c'est qu'un siècle plus tard, on n'a à peu près aucune idée, et qu'on ne sait pas pourquoi des enfants sont malades, alors que les autres, infectés par les mêmes microbes, ne sont pas malades. Donc c'est la question centrale dans le domaine des maladies infectieuses, et d'une certaine façon, ça reste la question centrale en médecine. Il y a plusieurs théories qui ont été proposées. Il y a des théories environnementales, une théorie microbienne, une théorie écologique. Mais les théories environnementales ne peuvent pas rendre compte de l'hétérogénéité clinique dans une population qui, par définition, est dans le même environnement. Et donc il y a deux théories qui sont des théories de l'hôte, une théorie génétique et une théorie épigénétique, qui proposent que le microbe, certes, est nécessaire, mais que ce sont des variations génétique ou épigénétique de l'hôte qui détermine la résistance ou au contraire la prédisposition au développement de la maladie infectieuse. Et la théorie génétique qui nous occupe et dont je vais vous parler aujourd'hui débute véritablement au début des années 20 par des travaux chez l'animal, des travaux qui sont conduits par Leslie Webster qui travaillait alors au Rockefeller, et qui démontre que selon la souche de souris infectée, le même microbe à la même dose peut donner une maladie ou au contraire résulter dans une infection asymptomatique. Et donc c'est la première démonstration que le fond génétique directement est important dans le développement de la maladie infectieuse, en tout cas dans un modèle expérimental. À peu près à la même période, dans les années 1900-1920, c'est le début de la génétique clinique, en particulier avec Archibald Garrod, qui définit les premières maladies génétiques chez l'homme, les maladies du métabolisme. Et inspiré par les travaux d'Archibald Garrod, plusieurs généticiens se penchent à nouveau sur la question des maladies infectieuses, non pas sous l'angle infectieux, mais sous l'angle génétique. Et les maladies infectieuses étant contagieuses, une façon assez astucieuse, enfin la plupart d'entre elles, une façon assez astucieuse de contourner le problème a consisté à étudier les quelques maladies infectieuses graves, mais qui ne sont pas infectieuses, comme par exemple l'appendicite. Et vous avez ici un arbre généalogique d'une famille rapportée dans les années 30, où l'appendicite prouvé histopathologiquement, a touché quasiment 30% des membres de cette famille, alors que dans la population générale, l'appendicite ne touche qu'environ 1% des individus. Et donc sur la base de ces agrégations familiales, des généticiens ont proposé que malgré la nature infectieuses, des maladies infectieuses, il y avait également une deuxième nature qui était génétique, héréditaire. Une deuxième série de travaux ont consisté à étudier les enfants adoptés et les jeunes adultes adoptés et à comparer la cause de décès à la fois aux parents adoptifs et aux parents biologiques. Et plusieurs études ont été conduites depuis les années 30, mais la plus belle, qui est celle-ci, qui est un peu un anachronisme parce qu'elle date des années 80, est une gigantesque étude scandinave qui démontre que de toutes les maladies humaines, cardiovasculaires, cancers, maladies infectieuses, etc., de loin, la plus génétique, la plus héréditaire des maladies humaines, c'est la maladie infectieuse. Et que le décès d'une maladie infectieuse est en rapport, non pas comme on pourrait le penser, avec le décès d'une maladie infectieuse des parents adoptifs, mais avec le décès par maladie infectieuse des parents biologiques. Ce qui évidemment est, du point de vue de la théorie infectieuse des maladies, le contraire du résultat attendu. La troisième grande ligne d'études, ce sont les études de jumeaux, qui ont été conduites notamment dans les années 20 et les années 30 par des investigateurs allemands. Et l'idée est toute simple, c'est de comparer les vrais jumeaux et les faux jumeaux. Les deux types de jumeaux partagent le même environnement, mais les vrais jumeaux ont un patrimoine génétique identique, tandis que les faux jumeaux ont un patrimoine génétique variable, qui est en partie commun. Et ce que ces savants ont découvert dans les années 20 et les années 30, c'est que dans le cas de la tuberculose, il y a une concordance de la tuberculose chez les vrais jumeaux qui approche 80%, tandis que chez les faux jumeaux, elle est entre 20 et 25%. Donc voilà une troisième démonstration indirecte, épidémiologique, de la contribution fondamentale du patrimoine génétique au développement de la maladie infectieuse. À ce moment-là, dans les années 30, survient, c'est la découverte des sulfamides en 32, et à partir de 33 jusqu'aux années 40, c'est la découverte des antibiotiques, qui finalement rend toutes ces questions un petit peu obsolètes. Les généticiens avaient repris un petit peu du poil de la bête, et la théorie verticale avait reçu un petit peu plus d'attention, mais la découverte des sulfamides et des antibiotiques fait que ces questions perdent de leur intérêt. Les vaccins marchaient déjà assez bien, et maintenant avec les antibiotiques et les sulfamides, finalement la question de savoir si les maladies infectieuses ont été héréditaires, ça paraissait sans grande importance. La deuxième guerre survient, et c'est seulement au début des années 50 que la question revient, et la question revient parce que les enfants traités par des antibiotiques, la plupart d'entre eux, évoluent bien, mais il y a une fraction des enfants traités par des antibiotiques qui récidivent, qui font une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième maladie infectieuse. Et finalement, chaque fois que les antibiotiques sont arrêtés, les maladies infectieuses, là où les maladies infectieuses reviennent. Et donc, un groupe de médecins, notamment de pédiatres, Bruton en particulier, un petit peu plus tard, Bob Good ou Henry Kunkel et quelques autres, Gitlin, Janeway, étudient ces enfants et découvrent que, d'une part, cette prédisposition aux maladies infectieuses multiples et récurrentes est héréditaire. Elle s'égrège sous la forme d'un trait lié à l'X récessif ou d'une maladie autosomique récessive. Et d'autre part, ils découvrent chez ces enfants des anomalies immunologiques. Par exemple, sur la gauche, ici, vous voyez une électrophorèse du sérum et un enfant qui n'a pas de gammaglobuline, une des protéines du sérum. Donc, c'est une école de pensée qui s'inspire directement d'Archibald Garrod. Ce sont des généticiens mendéliens. C'est vraiment de la génétique qualitative, de la génétique classique, de la génétique mendélienne, de la génétique clinique. Et c'est une discipline qui va prendre le nom des déficits immunitaires héréditaires, une discipline qui aura, dans le domaine de la pédiatrie et de l'immunologie clinique, un grand succès, qui conduira à la description de plus de 300 maladies, à l'identification de plus d'une centaine de gènes, à la première transplantation médulaire chez l'homme, au premier succès de thérapie génique, ici à Paris, par Alain Fischer. Bref, une discipline qui connaît un succès remarquable. Et à peu près à la même période, mais abordant le problème sous un angle complètement différent, sous l'angle de la génétique quantitative, sous l'angle de l'épidémiologie génétique, finalement sous l'angle d'une génétique galtonienne, c'est la découverte par Anthony Allison, à l'échelle des populations, et non plus à l'échelle des patients, la découverte que certains traits génétiques confèrent une résistance ou une prédisposition aux maladies infectieuses. En particulier, la découverte que le trait drépanocytaire protège des formes sévères de paludisme. Donc c'est une école qui est directement inspirée de Ronald Fischer, qui est le héros de la génétique quantitative et de l'épidémiologie génétique. Donc c'est une discipline qui tarde à décoller. Je veux dire que 1954 jusqu'au milieu des années 90, c'est une discipline qui se porte assez mal, notamment pour des raisons méthodologiques, et qui, à partir du milieu des années 90, et notamment grâce aux travaux de mon collègue et ami Laurent Abel, décolle. Donc c'est une discipline qui décolle véritablement au milieu des années 90. Et le paradigme dans cette discipline, c'est que les maladies infectieuses communes témoignent d'une hérédité polygénique, c'est-à-dire de nombreuses anomalies génétiques, chacune ayant un impact faible. Et c'est un paradigme qui est point par point opposé à celui de la génétique mendélienne. Les déficits immunitaires, classiquement, sont perçus comme des maladies rares, monogéniques, qui prédisposent les enfants atteints à de nombreuses maladies infectieuses. Donc ces deux disciplines évoluent côte à côte jusqu'au milieu des années 90. Le problème de cette division du champ d'investigation de la prédisposition génétique aux maladies infectieuses en deux écoles, ça s'explique historiquement, mais le problème c'est que ça ne rend pas compte de la réalité. Ça ne rend pas compte de la réalité parce que les maladies infectieuses ne peuvent pas se diviser en maladies infectieuses rares et communes. Il y a tous les intermédiaires, c'est un trait continu. Et d'autre part, les maladies infectieuses ne peuvent pas se diviser entre celles qui touchent des enfants par ailleurs bien portants et celles qui touchent des enfants ou des adultes multi-infectés. Là encore, il y a tous les intermédiaires, c'est un trait continu. Et donc cette division intellectuelle, si elle a des racines historiques compréhensibles, elle n'a pas de sens dans la réalité puisque les enfants et les adultes malades ne peuvent pas rentrer dans l'une ou dans l'autre catégorie. Et donc à partir du milieu des années 90, avec Laurent Abel, nous avons proposé une théorie unifiée de la prédisposition génétique aux maladies infectieuses, une théorie toute simple, qui propose qu'il ne faut pas tenir compte de l'incidence de la maladie infectieuse, il ne faut pas non plus tenir compte du nombre de maladies infectieuses pour définir une architecture génétique de la prédisposition aux maladies infectieuses, mais qu'il faut tenir compte tout simplement de l'âge. Il faut tenir compte de l'âge parce que si vous mourrez avant la puberté, eh bien, vos gènes disparaissent de la population, tandis que si vous mourrez à 45 ans, ça n'a aucune importance, vous avez déjà transmis les gènes et les allèles. Et donc à partir de ces observations toutes simples, et également à partir de l'observation bien connue que les maladies infectieuses touchent le premier et le troisième âge, mais qu'elles épargnent le deuxième âge, eh bien, notre théorie toute simple, c'est que les maladies infectieuses de l'enfant sont en règle des défauts mendéliens et que les maladies correspondantes chez l'adulte sont des maladies polygéniques. Voilà, c'est très simple. Et si cette théorie est exacte, eh bien c'est une théorie intéressante pour le pédiatre, parce que la maladie infectieuse cesse de devenir simplement une maladie infectieuse, elle devient une maladie génétique, et c'est important en termes de diagnostic, en termes de conseil génétique, en termes de compréhension de la physiopathologie, et bien sûr en termes de traitement, parce que si la maladie infectieuse devient une maladie génétique, eh bien à ce moment-là, on se retrouve au début du XXe siècle dans la période où on souhaitait traiter les malades en compensant une immunité qu'on pensait insuffisante, mais avec les moyens du XXIe siècle. Et si cette théorie est exacte, c'est aussi important pour le biologiste. Vous savez que les biologistes, c'est l'année Darwin, les biologistes se réclament tous de Darwin, notamment quand ils discutent avec les comités d'éthique ou les parlementaires ou les journalistes, ou leurs familles, mais ils ont une petite tendance, un péché bien compréhensible, à être beaucoup moins darwiniens quand ils réfléchissent à leurs propres travaux. Et ce que nous permet la génétique humaine, c'est de définir la fonction des gènes, non seulement in vitro ou in vivo dans un système expérimental, mais, et c'est ça la force, la puissance unique de la génétique humaine, mais de définir la fonction des gènes dans un écosystème naturel, dans un écosystème soumis à la sélection naturelle. Et donc la génétique humaine, c'est de la génétique, c'est de la biologie darwinienne par excellence. Donc voilà quels sont les avantages potentiels de cette théorie. Et nous l'avons testée au cours des 15 dernières années en étudiant plusieurs maladies infectieuses. Et je vais très brièvement vous donner quelques résultats principaux. On s'est dans un premier temps intéressé à la tuberculose. La tuberculose, c'est une maladie, on va dire ce n'est pas une maladie, la tuberculose, c'est deux maladies. Il y a une tuberculose de l'enfant, qui est une maladie aiguë, disséminée, gravissime, et puis il y a la tuberculose de l'adulte, qui est une maladie chronique, pulmonaire, qui est une maladie de réactivation, tandis que la maladie de l'enfant est une maladie de primo-infection. Donc il y a deux maladies, à nouveau il y a cette courbe en U qui est classique de toutes les maladies infectieuses, et seule une petite fraction des individus infectés développe la tuberculose. Donc le bacille de Koch, il est nécessaire, mais il est loin d'être suffisant au développement de la maladie. Et la façon dont on a abordé la génétique de la tuberculose, la génétique humaine de la tuberculose, c'est en s'intéressant à un syndrome pédiatrique rare qui s'appelle la prédisposition mendélienne aux infections mycobactériennes. Ce sont des enfants ou des jeunes adultes qui présentent des infections par les vaccins BCG ou bien les mycobactéries de l'environnement. Et on a découvert au cours des 15 dernières années un groupe de 16 maladies génétiques qui touchent des gènes impliqués dans un circuit immunitaire qui dépend de deux molécules principales, l'interleukine 12 et l'interféron gamma. Et la dissection génétique de cette prédisposition spécifique aux infections mycobactériennes, parce que ces enfants sont par ailleurs bien portants, nous a permis de découvrir les premières bases génétiques mendéliennes de la tuberculose de l'enfant. Il y a certains enfants qui vont bien, qui tout d'un coup développent une milière. Là, vous avez un tableau de milière avec une radio de thorax à gauche et un scanner à droite. Mais il y a des enfants qui tout d'un coup se retrouvent à l'hôpital avec une milière tuberculeuse. Et la raison pour laquelle ils ont une milière tuberculeuse, c'est bien sûr qu'ils ont été infectés par le bacille de Koch, mais également qu'ils ont un déficit autosomique récessif du récepteur de l'interleukine 12. Donc ces travaux ne rendent pas compte de la tuberculose à échelle planétaire, loin s'en faut, puisque ce sont seulement quelques familles qui ont été caractérisées. Mais ils ont apporté une preuve de principe que la tuberculose, au moins chez certains enfants, était bien une maladie génétique. On a ensuite abordé la question de la maladie pneumocoxique. Alors le pneumocoque est un microbe ubiquitaire. Tout le monde est infecté par le pneumocoque. Vous avez tous fait des otites quand vous étiez petit. Et seulement un enfant sur 5000 va faire une septicémie, une arthrite ou une méningite. Vous avez ici un liquide céphalorachidien avec des leucocytes qui ne devraient pas être là. Et les petits points bleus, ce sont des pneumocoques qui ne devraient pas être là non plus. Donc la question de la méningite ou de la septicémie à pneumocoque n'est pas comprise. On ne sait pas pourquoi certains enfants sont en réanimation avec une pneumocoxie. Et donc notre hypothèse, c'est que la pneumocoxie est une maladie génétique. Et à la suite de travaux concernant des déficits immunitaires assez complexes, étant notamment associés dans leur cortège symptomatique à des infections pneumocoxiques, on a découvert un déficit, une maladie génétique, un déficit autosomique récessif de la protéine IRAK4 qui bloque ce qu'on appelle l'immunité innée, ou en tout cas certaines voies de l'immunité innée, notamment les voies des récepteurs TOL, avec lesquels vous êtes familiers puisque c'est une découverte de Jules Hoffmann. Et cette découverte du déficit de la molécule IRAK4 nous a conduit ensuite à découvrir un déficit également autosomique récessif de la molécule MYD88 qui contrôle les mêmes voies de signalisation. Et ces deux maladies, le déficit d'IRAK4 et le déficit de MYD88, sont donc au sens propre des étiologies génétiques de l'infection à pneumocoque chez l'enfant. Alors là encore, ça ne rend compte que d'une petite fraction des infections pneumocoxiques, et nous avons donc de quoi nous occuper dans les années qui viennent. En tout état de cause, ces voies de signalisation par les récepteurs TOL et l'interleukine 1 sont essentielles chez l'homme pour le contrôle du pneumocoque et semblent largement redondantes pour le contrôle des autres micro-organismes, la plupart des autres bactéries, mais également des champignons, des parasites et de la plupart des virus, en tout cas des virus, des parasites et des champignons communs. La troisième maladie infectieuse qu'on a étudiée, c'est l'encéphalite herpétique. Et complètement par hasard, l'étude de cette maladie infectieuse nous a ramené à ces voies de signalisation, puisque le déficit en MYD88 et en IRAK4 respectait une voie de signalisation de ce groupe des récepteurs de l'interleukine 1 et des récepteurs TOL, qui est la voie dite TLR3. Et complètement par hasard, l'étude de l'encéphalite herpétique, qui est une maladie qui n'a rien à voir avec aussi bien les mycobactérioses que les pneumocoxies, nous a conduit à la compréhension du rôle de cette voie TLR3 dans l'immunité anti-infectieuse chez l'homme. Donc l'encéphalite herpétique, qu'est-ce que c'est? C'est une autre maladie infectieuse gravissime de l'enfant. Le virus de l'herpès simplex, tout le monde ou presque le rencontre dans l'enfance ou dans l'adolescence. C'est responsable au pire du bouton de fièvre chez la plupart des enfants. Mais un enfant sur 10 000, un enfant sur 5 000 à nouveau va développer une encéphalite herpétique, c'est-à-dire que soit par le bulbe olfactif, soit par le nerf trigéminé, le virus va monter dans le lobe temporal. Vous avez ici une image d'RMN d'un enfant qui a présenté une encéphalite herpétique. Donc c'est une maladie infectieuse gravissime. Jusqu'au développement du Zovirax au milieu des années 80, c'est une maladie qui était mortelle chez la quasi-totalité des enfants. Aujourd'hui, les enfants survivent, mais ont un retard mental, une épilepsie. Donc c'est une maladie qui reste terrible. Terrible et incomprise, puisqu'à nouveau, ce virus est inoffensif chez la plupart des enfants. Et donc la théorie génétique des maladies infectieuses permettait de tester l'hypothèse qu'il s'agissait d'une maladie génétique, ce que nous avons fait. Et nous avons découvert la première étiologie génétique de l'encéphalite herpétique en 2006. C'est une maladie autosomique récessive. C'est un déficit de la protéine 1-93B et qui contrôle, vous le voyez à nouveau, ces fameux récepteurs TOL dont je vous parlais tout à l'heure, notamment les récepteurs TOL 3, 7, 8 et 9. Et comme les récepteurs 7, 8 et 9 étaient aussi contrôlés par IRAK4 et MYD88, et que les défauts génétiques d'IRAK4 et MYD88 n'étaient pas associés à une encéphalite herpétique, l'hypothèse toute simple est que la physiopathologie de l'encéphalite herpétique dans le cadre du déficit en ONG93 n'impliquait pas les récepteurs 7, 8 et 9, mais impliquait le récepteur TOL3, ce qui nous a conduit à découvrir une année plus tard une maladie autosomique dominante marquée par un déficit de la protéine TOL3. Et au cours de la dernière année, nous avons découvert également des familles qui portent un déficit de la molécule TRIF, qui est juste en dessous, et plus récemment encore de la molécule TRAF3, qui est en dessous. Il y a donc finalement une voie de signalisation, et dans cette voie de signalisation qui contrôle la production des interférons, eh bien, une mutation, qu'elle touche un gène ou l'autre, est responsable d'une prédisposition mendélienne, récessive ou dominante, à l'encéphalite herpétique. Donc les implications cliniques de ces travaux sont importantes, puisque maintenant on peut effectuer un diagnostic moléculaire, et non seulement un diagnostic virologique. On peut offrir à ces familles un conseil génétique. Et de façon plus intéressante encore, l'interféron étant un médicament finalement commercialisé depuis une vingtaine d'années, on peut traiter ces enfants non seulement avec le Zoviract, qui est un antiviral, mais également avec l'interféron, qui finalement est un immunomodulateur et qu'on peut utiliser chez ces enfants comme on utilise l'insuline chez un diabétique. Donc les implications cliniques sont importantes et les implications immunologiques également, puisque c'est un bel exemple de la puissance de la génétique humaine. La fonction de ces voies de signalisation dans les modèles expérimentaux a été brillamment desséquée chez la drosophile, puis chez la souris. Mais ce que nous offre la génétique humaine, c'est de définir la fonction de ces gènes dans un écosystème naturel, dans le cadre de la sélection naturelle. Et ça nous dit que la voie de signalisation dépendante de MYD88 et d'IRAK4 est essentielle pour le contrôle des pneumocoques, et que la voie qui est indépendante de MYD88 et d'IRAK4 est essentielle pour le contrôle de l'encéphalite, enfin pour le contrôle du virus de l'herpès simplex. Voilà, j'espère vous avoir convaincu que certaines maladies infectieuses de l'enfant, chez certains enfants tout au moins, sont non seulement des maladies infectieuses, mais en fait des maladies génétiques, et que finalement la théorie horizontale de la fièvre de l'enfant était vraie, bien sûr, mais que la théorie verticale est finalement également valide, et que les maladies infectieuses sont infectieuses et génétiques. Si la théorie génétique des maladies infectieuses se développe, si elle devient un paradigme au cours des 10 ou 20 prochaines années, ce sera très important en plan clinique, puisqu'on traitera les enfants non seulement comme souffrant de maladies infectieuses, mais également comme souffrant de maladies génétiques. Et ce sera également important en plan biologique, notamment au plan immunologique, parce que l'immunologie s'est développée à partir de 1881. L'immunologie se développe à la suite de l'expérience de Pouilly-le-Fort. L'immunologie se développe à la suite de la découverte du principe de la vaccination par Pasteur. Et donc l'immunologie, historiquement, est une discipline expérimentale, puisqu'elle est fondée sur une journée d'expérience. Et si la théorie génétique des maladies infectieuses est correcte, eh bien ça nous permettra, ainsi qu'à d'autres immunologiques, juste de reprendre l'immunologie, non pas en 1881, mais de la reprendre en 1865, c'est-à-dire de la reprendre au moment où naît la théorie microbienne des maladies, et de considérer l'immunologie non plus sous le seul angle expérimental et vaccinal, mais sous l'angle des maladies infectieuses et de la résistance ou de la prédisposition à celles-ci. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.
Jean-Laurent Casanova, directeur du laboratoire de génétique humaine des maladies infectieuses de l'INSERM Unité 550, s'exprimait sur la théorie génétique des maladies infectieuses. Jean-Laurent Casanova est le lauréat 2008 du prix Lounsbery de l'Académie des sciences et de la National Academy of Science. Il s'exprimait lors d'une séance de l'Académie des sciences en mars 2009. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.